Seb, comment vas-tu?
Ça va très bien, Émile. Car on part en road trip et on amène notre cabaret des curiosités du web dans plusieurs villes du Québec au cours des prochains mois. Dans ces shows live, on explore de drôles d'histoires qui parfois nous font rire et parfois nous terrorisent. Les histoires changent à chaque show.
Le tout débute à Gatineau le 27 avril dans le cadre du Festival Transistor. Après, on se retrouve à Shawinigan le 13 juin au Wabasso avec nos amis de Côté Sombre. Et le 11 juillet, on se retrouve à Longueuil dans le cadre du Comic Fest à la salle Fanplast. Les billets sont en vente pour tous ces shows-là et d'autres dates risquent de s'ajouter sous peu, donc restez à l'affût.
Rendez-vous au distorsionpodcast.com pour connaître toutes nos dates et vous procurer des billets. Si vous souhaitez que Distorsion passe faire un tour dans votre région, écrivez-nous. On a vraiment hâte d'aller à votre rencontre.
De retour à votre programme principal.
Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur...
And the disturbing letters sent to the family who bought it. Family bought their dream home in New Jersey, never moving in, after getting frightening letters from someone calling themselves the Watcher.
I watch and wait for the day the young blood will be mine again. I pass by many times a day. You know I will be watching.
Des histoires étranges de l'ère numérique.
Jusqu'où peut-on aller pour obtenir la maison de ses rêves?
En 2014, les Brodus ont fait l'acquisition d'une magnifique maison ancestrale, parfaite pour y élever leur famille.
Peu de temps après avoir emménagé, ils commencent à recevoir des lettres inquiétantes et à se sentir menacés.
Semble-t-il, ils ne sont pas les seuls intéressés par cette maison.
Suivez-nous au cœur de ce mystère qui passionne encore les internautes plusieurs années plus tard.
Sébastien Lévesque, comment ça va ce soir?
Ça va bien, et toi, Émile Gauthier?
Ça va très bien. Dis-moi donc, qu'est-ce qu'on boit ce soir pour ce deuxième épisode de notre saison 7?
On s'abreuve, mon cher Émile, de la bière qui se nomme L'Autre Laurentide, et c'est la microbrasserie du Lièvre à Mont-Laurier qui produit ça. C'est excellent. C'est une New England IPA. En fait, c'est une double New England IPA DDH.
Ça commence à être technique.
Oui, quand même assez puissante en alcool, là, donc 8,4%. Donc, on se la partage aujourd'hui.
On a aussi un magnifique shout-out 5 étoiles sur Apple Podcast. Et là, André, mets-nous une belle musique de piano langoureuse, là, parce que vous allez voir, c'est touchant. Ça nous vient d'une certaine Alex Poole. Vous êtes comme une drogue. Je vous ai découvert un peu en retard, mais je vous ai amené avec moi dans mon périple dans l'Ouest canadien cette année. Vous êtes les douces voix qui m'ont guidé à travers le Canada et même durant mes hikes dans les Rocheuses. J'avais hâte de faire la route juste pour cela. Vous êtes authentiques et j'espère que vous allez continuer pendant longtemps à faire le podcast. Je suis infirmière nomade à travers notre pays et vous êtes mon addiction. Donc, shout-out à toi, Alex Poole, et shout-out à tous les travailleurs, travailleuses de la santé, tiens.
Oui, absolument. Sans vous, ça craquerait encore plus de partout.
Oh oui. Et donc, on vous rappelle que si vous voulez obtenir nos épisodes en avance et même des épisodes bonus et les after-shows, consultez notre page Patreon pour vous abonner. Et Seb, nul besoin d'en dire plus. Es-tu prêt à te plonger dans le mystère de la maison de la famille Brodus?
Oui, mais... Avant toute chose, on doit remercier notre commanditaire NordVPN qui présente l'épisode d'aujourd'hui. Tu sais, Émile, que je suis un passionné de sécurité informatique et pour moi, c'est primordial de pouvoir utiliser l'Internet en toute quiétude. C'est pour ça qu'on vous recommande l'utilisation de NordVPN pour protéger vos communications lorsque vous utilisez l'Internet dans un endroit public. NordVPN, voté parmi les meilleurs VPN au monde, vous permet de naviguer sur Internet de façon anonyme en plus de vous protéger des tentatives de piratage, autant sur votre ordinateur que sur votre téléphone intelligent.
Ça, je le sais, Seb, parce que je me suis fait souvent pirater mes comptes en ligne par le passé. Donc, je peux vous confirmer que c'est très important. En plus de cela, lorsqu'on voyage, c'est toujours pratique d'avoir accès aux sites de nouvelles qu'on fréquente à la maison, même les sites de streaming comme Netflix, Disney+, Apple TV ou autres, ou même des sites de shopping, sachant que bien souvent, ils sont bloqués dans d'autres pays. Donc, NordVPN vous permet de naviguer sur les mêmes sites qu'à la maison, peu importe où vous êtes dans le monde.
Si vous êtes étudiant et que vous fréquentez les cafés Internet ou même encore les bibliothèques publiques, ou même si vous êtes parent et que vous voulez vous assurer que vos enfants naviguent sur Internet en toute sécurité, NordVPN est pour vous.
En plus, Distorsion a une promo très intéressante. Rendez-vous au nordvpn.com/distorsion pour profiter d'un immense rabais sur une subscription de 2 ans, en plus d'un cadeau bonus. Et on aime ça, les bonus.
Oh oui!
Là-dessus, Seb, sommes-nous prêts à se lancer dans l'épisode d'aujourd'hui?
Oui, madame.
Allons-y.
Yeah.
Ce mystère-là est intéressant, Seb, parce que, tu sais, on a toujours une fébrilité hein, à l'achat d'une nouvelle propriété. On sait jamais quand on fait l'inspection d'une maison, on sait jamais qu'est-ce qui va réellement se passer. Hein. Souvent, c'est des achats qui sont tellement émotionnels qu'on peut mettre de côté certaines défaillances ou même fermer les yeux un petit peu volontairement sur certaines choses, étant donné que c'est tellement un achat qui est anticipé.
Oui, puis t'as tellement raison, c'est beaucoup un achat émotif, puis je te dirais que dans le marché actuel, à l'heure qu'on se parle, même si l'histoire dont on parle est quelques années auparavant, c'est encore plus vrai ce que tu dis. Hein? Les gens, il y a beaucoup de gens qui se bousculent pour acheter une maison, et souvent c'est au plus offrant, et justement souvent lorsqu'on doit faire des vérifications, s'assurer que la maison, les inspections et tout ça, que la maison est conforme, souvent on saute cette étape-là pour aller plus rapidement, donc pour conclure une transaction tellement que
oui.
on veut une maison. Souvent l'humain a ce besoin, je sais pas si je peux dire fondamental, mais presque là, de posséder sa propriété.
Puis souvent, c'est des coups de foudre, hein, les achats de maison. On rentre dans la place, puis on voit le potentiel, puis on tombe un peu en amour avec la propriété. Puis c'est un peu ce qu'a vécu la famille Broadus là, en 2014, et je te laisse nous partir ça.
Oh oui! Nous sommes en juin 2014. Derek Broadus vient de terminer une soirée de peinture dans sa nouvelle maison fraîchement acquise dans la ville de Westfield, qui est située dans l'État du New Jersey aux États-Unis. C'est une petite ville très tranquille, là, d'un peu plus de 30 000 habitants avec un taux de criminalité là, vraiment, vraiment bas. Là. Derek, qui venait de fêter ses 40 ans, et sa femme, Maria, avaient conclu la transaction de cette grande maison possédant 6 chambres à coucher, située au 657 Boulevard. Juste pour préciser, là, parce qu'on va le renommer souvent, là, c'est vraiment le nom de la rue. La rue s'appelle Boulevard.
Exact.
3 jours plus tôt, et il faisait justement quelques rénovations avant d'emménager. Ça a été un coup de cœur là, instantané dès la première visite de la maison avec leurs 3 enfants. Un peu comme on vous disait tout à l'heure, là, c'est le coup de cœur, c'est le principal levier de décision dans l'achat d'une maison. Les enfants discutaient déjà de quelle cheminée le Père Noël allait emprunter pour venir y déposer les cadeaux. Là. Donc, c'était pas seulement un coup de cœur pour les parents, mais les enfants aussi. Sont tombés en amour avec la maison. Avant de quitter, Derek sort vérifier le courrier dans la boîte aux lettres et on y trouve une enveloppe et qui est adressée au nouveau propriétaire. Simplement sur l'enveloppe, c'est écrit ça. Et c'est écrit comme vraiment à la main, comme à la plume ou au pinceau. Et c'est une grosse écriture noire et épaisse, là, un peu comme à l'époque, là, dans le temps qu'on... je sais pas à quelle époque, là, mais l'époque où on écrivait plus des lettres, plus à la plume. Et à l'intérieur, on peut y trouver une lettre qui est écrite à la dactylo, là, plutôt dactylographie, qui commence chaleureusement comme suit. « Cher nouveau voisin du 657 Boulevard, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans le quartier. Comment êtes-vous arrivé ici? Le 657 Boulevard vous a-t-il appelé avec sa force intérieure? Le 657 Boulevard est le sujet de ma famille depuis des décennies et à l'approche de son 110e anniversaire, j'ai été chargé de surveiller et d'attendre sa seconde venue. Mon grand-père surveillait la maison dans les années 20 et mon père dans les années 60. C'est maintenant mon heure. Connaissez-vous l'histoire de la maison? Savez-vous ce qui se cache entre les murs du 657 Boulevard? Pourquoi es-tu ici? Je vais le découvrir. Je vois déjà que vous avez envahi le 657 Boulevard avec des entrepreneurs en construction pour que vous puissiez détruire la maison telle qu'elle devait l'être. Mauvais coup. Vous ne voulez pas rendre le 657 Boulevard malheureux. J'ai demandé aux Woods, on vous expliquera après qui c'est, de m'apporter du sang jeune et on dirait qu'ils ont écouté. Vous avez des enfants, je les ai vus. Jusqu'à présent, je pense qu'il y en a 3 que j'ai comptés. D'autres sont en chemin? Avez-vous besoin de remplir la maison avec du sang jeune que j'ai demandé? C'est mieux pour moi. Votre ancienne maison était-elle trop petite pour la famille grandissante ou était-ce par cupidité de m'amener vos enfants? Une fois que je connaîtrai leurs prénoms, je vais les appeler et les dessiner moi aussi. Il y a des centaines et des centaines de voitures qui roulent chaque jour devant le 657 Boulevard. Peut-être que je suis dans une de celles-ci. Regardez toutes les fenêtres que vous pouvez voir depuis. Peut-être que je suis dans une d'elles. Regardez par l'une des nombreuses fenêtres du 657 Boulevard toutes les personnes qui se promènent chaque jour. Peut-être que j'en suis une. Bienvenue mes amis. Bienvenue. Que la fête commence. Et là, c'est signé en lettres cursives « The Watcher ».
Puis aussi, faut pas oublier que quand on dit le sang jeune, c'est en fait c'est young blood en anglais, là, donc c'est un peu l'expression du sang neuf. Mais pour lui, ça représente un peu les enfants de la famille Broadus là, pour lui.
Exactement. Oui, parce que faut savoir aussi que bon, les lettres on les a traduites du mieux qu'on a pu dans le sens que c'est aussi ils ont été écrites dans un anglais très littéraire. Donc on va vous en parler un peu plus loin. Là. Donc c'est pour ça que des fois les expressions ont l'air un peu étranges, là, mais c'est dû à cause de ça. Puis tout le long on va quand même toujours appeler The Watcher. Là. On traduira pas l'observateur.
Non.
Écoutez, ça c'est la première lettre. Imagine Émile, là, tu t'achètes une maison, là. Ça fait 3 jours qu'elle est achetée. Tu peintures le soir, t'es bien heureux. Là tu sors. Tu vas à la boîte aux lettres et tu lis ce genre de lettre-là. Ça serait quoi ta première émotion?
Ben j'aurais un premier découragement, je dirais. Tu sais, c'est tellement important d'avoir un bon voisinage. On le sait, hein, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un conflit avec quelqu'un qui habitait dans la même rue. Je sais que toi aussi, oui. SM. Parfois, c'est des choses qu'on choisit pas, son voisinage. Exact. On choisit sa maison, mais c'est tellement important d'avoir des gens avec qui on s'entend bien. Sinon, ils peuvent faire de notre vie là un calvaire. Là. Moi, je sais pas qu'est-ce que je ferais. Je pense que la première chose que je ferais, ça serait mon genre d'installer des caméras là, devant la boîte aux lettres, devant la maison, tout ça. Ça serait un des premiers réflexes que je ferais. Mais je pense pas que j'irais voir la police tout de suite parce que je me dis c'est peut-être un troll ou quelque chose du genre. Mais déjà c'est pas une bonne lettre de bienvenue. Là. Toi, comment tu réagirais?
Moi, je pense un peu comme toi. Je me dirais que c'est peut-être une blague d'un voisin ou quelque chose comme ça, une sorte d'initiation du voisinage. Je serais peut-être pas inquiété au départ, peut-être en me disant justement que le quartier est calme, très tranquille. Mais en même temps, j'ai de la misère à figurer. Tu sais, c'est une histoire vraie là, ce qu'on vous raconte, mais j'ai de la misère à figurer de vivre une chose comme ça tellement que c'est étrange. Mais je pense que j'aurais vraiment peur. Là. Puis je le sais pas à cette étape-là si j'irais nécessairement voir la police. Je pense que non, là, j'attendrais encore. On continue. Pour les Broadus, ils venaient de réaliser un rêve. Là. Il faut savoir que Maria, qui est la femme de Derek, a grandi, elle, à Westfield, à quelques pâtés de maison de leur nouvelle acquisition. Derek, lui, de son côté, a grandi dans une famille de la classe ouvrière, plus dans l'État du Maine. Pour peut-être les gens qui connaissent un peu moins les États-Unis, le Maine est très, très près du Québec. Même sur la carte, il est collé sur le Québec. Donc, Derek a gravi les échelons dans une compagnie d'assurance à Manhattan pour devenir vice-président principal, disons avec un salaire suffisant pour s'offrir une maison de 1,3 million de dollars qu'il vient de s'acheter. Parce que c'est ça le prix de sa grande maison à 6 chambres. De ce qu'on peut comprendre avec les éléments précis dans la lettre, c'est que l'auteur les surveillait de près là, et pour vrai. Parce que plus tôt dans la semaine, les travaux de rénovation ont commencé. Et Derek et Maria étaient allés à la maison, avaient fait connaissance avec leurs nouveaux voisins et leurs 3 enfants de 5, 8 et 10 ans jouaient justement dans la cour avec d'autres enfants du quartier. Là. Donc, la personne qui écrit la lettre surveille la maison de près ou du moins et près de la maison pour avoir pu observer ça. Là.
C'est clair. L'enveloppe en question dans laquelle ils ont reçu la première lettre n'avait pas d'adresse de retour, mais il y avait quand même un timbre. Elle a été envoyée par la poste. Donc, même avec mon idée de caméra tout à l'heure, possiblement que la seule chose que j'attraperais, ce serait le facteur là, qui viendrait déposer l'enveloppe. Mais quand même, déjà, ça me permettrait de voir peut-être s'il y a des voitures qui passent souvent ou s'il y en a qui s'arrêtent souvent. Bref. À ce moment-là, il était plus de 22 heures et Derek Brodus était seul dans la maison. Abasourdi parce qu'il vient de lire, il fait le tour de la maison en courant, éteignant toutes les lumières sur son passage pour que personne ne puisse voir à l'intérieur. Et il appelle immédiatement le service de police de Westfield. Un policier se déplace le soir même et Derek lui montre la lettre. La première réaction du policier est « What the fuck? » Et il demande à Derek s'il, évidemment, il a des ennemis ou des gens qui pourraient lui en vouloir du mal. Une des premières choses qu'on demande, évidemment. Il lui recommande aussi là, de déplacer les pièces d'équipement que les ouvriers ont laissées devant le portique à l'arrière au cas où The Watcher voudrait s'en servir pour briser une fenêtre. Donc, dans le fond, écarte tout objet qui pourrait servir d'arme ou pour briser quelque chose. Oui. Il exécute et ferme bien la maison à clé. Il se précipite dans sa maison actuelle, rejoindre sa femme et ses enfants qui sont situés là, dans la même ville à Westfield. Derek explique la situation à Maria, sa femme, et il décide d'envoyer immédiatement un courriel aux anciens propriétaires de la maison, qui est un couple, John et Andrea Woods, pour leur demander s'ils avaient une idée là, de qui ça pourrait être, le The Watcher, ou pourquoi cette personne-là a demandé dans la lettre « J'ai demandé aux Woods de m'apporter du jeune sang, et on dirait qu'ils ont écouté. » Donc, il essaie d'éclaircir la situation avec les anciens propriétaires. Andrea Woods répond le lendemain matin que quelques jours avant de déménager, ils avaient reçu également une lettre de The Watcher. La lettre, du même type que celle reçue par les Brodus, mentionnait que des éléments similaires comme le fait que la famille du Watcher observait la maison depuis longtemps. Cependant, elle précise qu'elle et son mari n'avaient jamais rien reçu de tel au cours de leurs 23 années dans la maison et ils avaient déjà jeté la lettre aux poubelles sans trop y penser, pensant que c'était une erreur ou une blague, sans plus. Donc c'est quand même un peu étrange ce qui est arrivé à cette famille d'anciens propriétaires. Ce jour-là, les Woods sont tout de même allés avec Maria Brodus au poste de police rencontrer le détective Leonard Lugo. Celui-ci leur exige de ne parler à personne des lettres, y compris à leurs nouveaux voisins, qu'elles n'avaient jamais rencontrés pour la plupart et qui étaient maintenant tous des suspects dans ce cas-ci, parce qu'ils connaissent personne, donc évidemment qu'ils se demandent, c'est sans doute quelqu'un du quartier. Les Brodus passèrent les prochaines semaines sur un niveau d'alerte très élevé. Derek a annulé un voyage d'affaires pour le travail et chaque fois que Maria amenait les enfants dans leur nouvelle maison, elle les ramenait à l'ordre s'ils allaient se promener trop loin dans la cour. Lorsque Derek fit visiter la maison rénovée à un couple du quartier, il s'est figé lorsque la femme a dit « Ce sera bien là, d'avoir du sang nouveau dans le quartier », étant donné que ça faisait référence à ce qu'il avait lu dans la lettre.
Oui.
Bizarre un peu. Pour en rajouter une couche de plus, l'entrepreneur général des Brodus est arrivé un matin pour constater qu'un des lourds panneaux qu'il avait cloué à l'arrière de la maison, juste à l'avant, là, avait été arraché pendant la nuit. Donc, un peu de vandalisme même.
Ouais.
Deux semaines après l'arrivée de la lettre, Maria s'arrête à la maison pour vérifier des échantillons de peinture ainsi que le courrier. Tout de suite, elle reconnaît les lettres noires épaisses sur une enveloppe en forme de carte et elle appelle aussitôt la police. Et là, Seb, tu vas nous parler du contenu de cette deuxième lettre.
Oui, exact, qui est encore plus creepy que l'autre. Bienvenue à nouveau dans votre nouvelle maison au 657 Boulevard. Les ouvriers ont été occupés et je vous ai regardé décharger vos effets personnels. Les poubelles, c'est une belle façon de se connaître. Ont-ils trouvé ce qu'il y a dans les murs? Avec le temps, ils trouveront. Le 657 a hâte que vous emménagiez. Cela fait des années et des années depuis que le 109 a régné dans les couloirs de la maison. Avez-vous déjà trouvé tous les secrets qu'elle garde pour elle? Le jeune sang ou le 109 jouera-t-il dans le sous-sol? Ont-ils trop peur d'y aller seul? J'aurais eu très peur si j'étais eux. Il est loin du reste de la maison. Si vous êtes à l'étage, vous ne les entendriez jamais crier. Vont-ils dormir dans le grenier ou allez-vous tous dormir au deuxième étage? Qui a les chambres donnant sur la rue? Je le saurai dès que vous emménagerez. Cela m'aidera à savoir qui est dans quelle chambre. Ensuite, je pourrai mieux planifier. Toutes les fenêtres et portes du 657 me permettent de vous surveiller et de vous suivre lorsque vous vous déplacez dans la maison. Qui suis-je? Je suis The Watcher et je contrôle le 657 Boulevard depuis près de 2 décennies maintenant. La famille Woods vous l'a confié. Il était temps pour eux de passer à autre chose et de l'avoir gentiment vendu quand je leur ai demandé. Ça, c'est encore plus creepy. Je passe plusieurs fois par jour. Le 657 Boulevard, c'est mon métier, ma vie, mon obsession. Et maintenant, vous êtes aussi la famille Brodus. Bradus, en fait. Il a écrit vraiment la famille Bradus avec une petite faute.
Oui.
Volontairement. On en reparle après. Bienvenue dans le produit de votre avidité. La cupidité est ce qui a amené les 3 dernières familles au 657 Boulevard. Et maintenant, elle vous a amené à moi. Bonne journée d'emménagement. Vous savez que je vais surveiller.
Ah oui, là, ça s'escalade, là.
Ça escalade. C'est tellement troublant. Il y a tellement d'éléments troublants. D'un, il s'adresse au couple par leur nom cette fois-ci, même s'il l'a mal orthographié. Ça veut dire qu'il l'a entendu, ou du moins...
Le Bradus, là, ouais, la faute.
Oui, exactement, parce que s'il avait peut-être checké dans les registres de vente ou tout ça, il n'aurait pas nécessairement fait l'erreur de typographie, j'ai l'impression, mais ça donne vraiment l'impression que quelqu'un qui a entendu quelqu'un dans le voisinage le prononcer, puis il l'a écrit comme il le pensait. On a l'impression soit que The Watcher a installé des micros dans la maison, là, ce qui serait encore moins rassurant, ou vraiment que c'est un voisin de proximité. Également, il y a des éléments qui n'ont jamais été révélés au public là, dans la seconde lettre parce que il y a des détails intimes sur la famille. On n'en a pas parlé, mais ils se vantent justement d'avoir obtenu des informations sur les enfants au cours des dernières semaines. Et dans la lettre originale, ils nomment dans l'ordre tous les noms des enfants avec leur date de naissance. Donc, imaginez, là, il a fait des recherches. Là. Et il nomme même les surnoms des enfants. On a tous un petit surnom hein, pour nos enfants. Donc, encore une fois, ça veut dire qu'il l'a entendu. Parce que Maria, souvent, quand les enfants jouent dans la cour, elle les appelle. Donc, encore une fois, ça pointe vers quelqu'un du voisinage. Il a également souligné dans la lettre qu'il avait pu voir l'un des enfants dessiner dans le portique arrière. Là, il y a un chevalet d'installer et demande « Est-ce que c'est l'artiste de la famille? » En plus d'ajouter « Je suis heureux de connaître vos noms maintenant et le nom du 109 que vous m'avez apporté. » Donc, le fait qu'il pouvait voir un des enfants dessiner sur le chevalet, parce que c'est vrai qu'il y a un des enfants qui dessinait sur le chevalet, c'était vraiment, vraiment caché. C'est pas n'importe quel voisin qui peut voir ça. Là. C'est encore plus effrayant. Là. Cette lettre-là est encore plus effrayante que la précédente. Rien pour rassurer les parents. Derek et Maria ont arrêté d'amener leurs enfants dans leur nouvelle maison de rêve. Ils ne savent même plus quand, ni même s'ils vont y emménager. Là. Je peux les comprendre là, d'agir ainsi. Emile, moi, après cette deuxième lettre-là, je me sentirais pas du tout en sécurité. Là, je serais allé à la police. Là. Eux, ils ont déjà été préalablement. Là. Mais c'est vraiment inquiétant.
Oui, tout à fait, c'est clair. Leur absence se fait remarquer et quelques semaines plus tard, une troisième lettre arrive. Et je vous la lis comme suit. « Mais où êtes-vous parti? Le 657 s'ennuie de vous. » Donc, il a remarqué évidemment qu'ils avaient quitté l'endroit. Parlons un peu plus de la ville de Westfield. Elle est située à 45 minutes de la ville de New York et c'est une ville plutôt familiale, ce qui signifie que les 30 000 habitants de la ville sont en grande partie des familles aisées qui se sont installées là. Il est à noter que 86 % de la population est blanche. Dernièrement, Bloomberg a classé Westfield la 99e ville la plus riche d'Amérique, mais seulement la 18e la plus riche du New Jersey. Et en 2014, lorsque The Watcher a frappé, le site web Neighborhood Scout l'a nommé la 30e ville la plus sûre, donc la plus sécuritaire du pays. Selon des résidents, il est très difficile d'acquérir une propriété et les enchères peuvent monter rapidement quand 2 acheteurs veulent une même maison. Justement, la maison des Brodus est située sur la rue Boulevard, qui est une large rue bordée d'arbres avec certaines des maisons les plus convoitées de la ville. C'est quand même un quartier assez cossu, puis la maison en question, elle est magnifique. Construite en 1905, la maison du 657 était peut-être la plus grande maison du quartier. Et lorsque les Woods l'ont mise sur le marché, les propriétaires avant les Broadus, ils avaient reçu plusieurs offres au-dessus de leur prix demandé. Cela a amené les Broadus à soupçonner au départ que le Watcher pourrait être un acheteur contrarié là, d'avoir perdu la maison aux enchères depuis plusieurs années. Mais les Woods ont déclaré qu'un acheteur intéressé s'était retiré après un mauvais diagnostic médical, tandis qu'un autre avait déjà trouvé une autre maison. Dans un courriel au Broadus, Andrea Woods propose plutôt une autre théorie. Il suggère qu'étant donné qu'il mentionne les camions de l'entrepreneur et le nom des enfants, le Watcher, il serait plutôt quelqu'un du quartier, plus qu'un ancien acheteur.
Oui, exact.
La provenance également des lettres prouvait que c'était quelqu'un qui était résident du secteur. Elles avaient été traitées à Kearney, au centre de distribution de services de la poste américaine dans le nord du New Jersey. Donc, c'est ce qu'on a appris en retraçant d'une manière numérique d'où venaient les fameuses lettres. La première... Je vais attendre que la moto passe.
Il paraît qu'il fait beau, il y en a plus aujourd'hui.
La première a été postée le 4 juin avant que la vente ne soit publique et les Woods n'avaient jamais mis de panneaux à vendre, et seulement un jour après l'arrivée des entrepreneurs. Les rénovations étaient principalement intérieures et les personnes qui vivaient à proximité disent qu'elles n'ont pas remarqué d'agitation inhabituelle, même à cause du marteau-piqueur dans le sous-sol.
Dans ça, ça n'a pas attiré de gens, le voisinage.
Lorsque Derek et Maria ont fait visiter la maison au détective Lugo, ils lui ont montré que le chevalet sur le porche arrière était caché de la rue par la végétation, ce qui rend plutôt difficile à voir, à moins que quelqu'un ne se trouve derrière la maison ou juste à côté, donc quelqu'un qui serait peut-être infiltré dans la cour d'un voisin ou de la cour des Broadus, ou sinon peut-être un voisin, qui sait. Quelques jours après la première lettre, Maria et Derek se sont rendus à un barbecue de l'autre côté de la rue en l'honneur des nouveaux arrivants dans le quartier. Les Broadus n'avaient parlé encore à personne du Watcher, comme la police l'avait demandé. Ils se sont mis à enquêter discrètement de leur côté et à rechercher des indices durant la fête, tout en gardant un œil sur leurs enfants, bien entendu. Ceux-ci ont couru sans malice à travers une foule qui était constituée en grande partie de potentiels suspects. Quand tu vas à un barbecue du quartier et que tu as reçu des lettres de menace juste avant, provenant sans doute de quelqu'un du quartier, tu essaies de détecter un peu l'hypocrisie. Tu y vas avec un peu de suspicion.
Oui, ouais, absolument. Puis tu dois observer tout le non-verbal. Tu dois être vraiment dans un état d'alerte.
À un moment donné, Derek discutait avec John Schmidt, un voisin qui habitait deux portes plus loin. Schmidt discuta des Langford qui vivaient entre leurs maisons respectives. Peggy Langford avait 90 ans et plusieurs de ses enfants adultes, le même âgés, tous dans la soixantaine, vivaient avec elle. La famille était un peu étrange selon Schmidt, mais inoffensive. Il a décrit l'un des plus jeunes Langford, Michael, comme quelqu'un qui ne travaillait pas et qui se laissait pousser la barbe un peu comme Ernest Hemingway. Derek pense alors que l'affaire est résolue. Il se dit que la maison des Langford est juste à côté du chevalet sur le porche. Ils peuvent le voir, donc ceci explique cela. La famille y vivait depuis les années 60, lorsque le père du Watcher, selon les lettres, avait commencé à observer le 657. Richard Langford, le patriarche de la famille, est décédé, lui, 12 ans plus tôt, et le Watcher a affirmé avoir été en poste pendant la plus grande partie des deux dernières décennies. Il y aurait peut-être un lien possible. Par contre, lorsque les Broadus ont parlé de la famille au détective Lugo, il a dit qu'il la soupçonnait déjà et qu'une semaine après l'arrivée de la première lettre, il avait amené Michael Langford au commissariat de la police pour un interrogatoire. Michael a nié savoir quoi que ce soit au sujet des lettres. N'ayant pas beaucoup de preuves tangibles et après quelques semaines, le chef de la police a déclaré aux Broadus que, à moins d'un aveu, il ne pouvait pas faire grand-chose pour leur situation.
C'est à ce moment-là que ça commence de plus en plus à dégénérer pour eux. Derek commence à perdre patience et après la deuxième lettre, il menace les policiers que s'il ne s'occupait pas de la situation, il aurait un autre type d'affaire entre les mains. Quand tu es rendu à menacer la police, c'est que tu files, c'est un état de stress assez élevé. Et lui, il leur disait « Cette personne a attaqué ma famille et d'où je viens, si tu fais ça, tu te fais botter le cul. » Je le cite textuellement, c'est M. Broadus qui disait ça aux policiers. Frustrés par l'enquête qui mène nulle part, les Broadus ont commencé leur propre enquête. Comme ça arrive souvent, souvent dans les cas de disparition et tout ça, la famille va souvent engager un détective privé. Donc, Derek devient particulièrement obsédé. Il installe des webcams, ton idée justement, Émile, au 657 et passe des nuits accroupi dans le noir à regarder si quelqu'un surveille la maison de près. Pauvre gars, hein, quand même.
C'est exactement ce que je ferais.
Oui, mais imagine, là, t'sais, lui, il a une job de jour, là, si on peut dire. T'as ta famille à t'occuper, puis là, t'as ça le soir, ça doit t'amener, ça t'amène vraiment dans les bas-fonds. Là. Au point où sa femme, Maria, elle pensait qu'il était en train de devenir fou. Là. Il avait identifié sur une carte du quartier la date d'aménagement de chacun des voisins. Les Langford étaient les seuls depuis les années 60 à avoir aménagé dans le quartier. Il avait aussi noté les maisons qui pourraient voir le chevalet et où entendre le nom des enfants jouant à l'extérieur. Seules quelques maisons répondent à ces deux critères. Les Brodus se sont également tournés vers plusieurs experts. Ils ont engagé un détective privé qui a surveillé le quartier, vérifié les antécédents des Langford, aussi là, les voisins dont on vous parle depuis tantôt, mais il n'y a rien trouvé de notable. Derek a contacté un ancien agent du FBI, c'est même celui qui a inspiré Clarice Starling là, dans le Silence des agneaux.
Oh.
Donc, il est allé avec du gros calibre. La raison, en fait, pourquoi il avait accès à cette personne-là, c'est que les deux faisaient partie d'un conseil d'administration de leur école secondaire ensemble, là, donc au lycée, si vous voulez. Ils se connaissaient, ils étaient déjà, d'une certaine façon, amis. Et ils ont également embauché Robert Linen, un autre ancien agent du FBI, pour procéder à une évaluation de la menace. Linen a reconnu que la formulation des phrases donnait l'impression que c'était une personne qui était assez âgée là, qui rédigeait les lettres. Par exemple, l'enveloppe était adressée à Monsieur Madame Bradus. Les salutations aussi, on en a pas parlé tantôt, mais il y avait toujours, ça incluait la météo du jour, là, comme par exemple, ça disait chaud et humide ou ensoleillé et frais pour une journée d'été. Et les phrases avaient des espaces doubles entre elles, ce qui était une méthode plus ancienne. Les lettres avaient un certain panache littéraire aussi qui suggérait que c'était quand même un avide lecteur. Et aussi, ce qui a été remarqué par le détective, c'est qu'il y avait une absence surprenante en fait de blasphème, étant donné que le ton était quand même colérique et agressif. Donc, selon lui, ça signifiait que, disons que c'était une personne qui était pas nécessairement, ben, je le cite là, qui disait qu'il était moins macho, mais macho dans le sens de masculin. Il se demande même si The Watcher avait vu le film The Watcher qui met en vedette Keanu Reeves dans le rôle d'un tueur en série qui traque le détective essayant de l'attraper. Là. Je me souviens pas de l'avoir vu, ce film-là. Toi, tu te rappelles-tu d'avoir vu ça, Emile?
Non, moi non plus, mais ça m'inspire.
Oui, moi aussi. Lena ne pensait pas que The Watcher était susceptible de mettre ses menaces à exécution. Mais les lettres comportent suffisamment de fautes de frappe et d'erreurs pour impliquer enfin un certain erratisme. Là. Par exemple, la première lettre était datée du mardi 4 juin, mais en fait, c'était un mercredi. Il y avait aussi une colère bouillonnante qui était dirigée vers les riches, là. Selon son analyse. Là, en particulier, il parlait des rénovations. Il y a d'autres extraits qu'on vous a pas parlé ou ce qui critiquait comment le quartier s'était gentrifié aussi au fil du temps, etc. Il semble alors que les Brodus ne sont pas au bout de leur peine.
Lennon recommande de rechercher d'anciennes femmes de ménage ou même leurs descendants. Peut-être que le Watcher était jaloux que les Brodus aient acheté une maison qu'il ne pouvait pas se permettre lui-même. Mais la piste principale est demeurée les Langford, la famille qui habite à côté. En coopération avec la police de Westfield, les Brodus ont envoyé une lettre aux Langford annonçant leur intention de démolir la maison dans l'espoir d'obtenir une réponse, mais rien ne s'est passé. Le détective Lugo a amené Michael Langford pour un deuxième interrogatoire, mais cela n'a abouti à rien encore une fois. Et sa sœur, Abby, a accusé la police d'avoir harcelé leur famille à propos de cette affaire. Finalement, les Brodus ont embauché Lee Levitt, un avocat qui a rencontré plusieurs membres de la famille Langford, ainsi que leur avocat à eux, pour leur montrer les lettres ainsi que des photos expliquant comment leur maison était l'un des rares points de vue d'où le chevalet pouvait être vu sur le terrain des Brodus. La rencontre était tendue et les Langford ont insisté sur le fait que Michael était innocent. Ce n'est rien pour diminuer leur stress et leurs angoisses qui se transposaient également dans leurs rêves. Une nuit, Derek a fait un rêve dans lequel il affrontait Peggy, l'aînée de la famille Langford, et il lui demandait de construire une clôture de 8 pieds entre les propriétés. Donc tout ça les empêche de dormir. Maria faisait d'autres types de rêves. Une nuit, elle s'est réveillée avec une histoire particulièrement frappante à propos d'un homme qui vivait à proximité de la maison. Dans son rêve, il portait des bottes et avait une fourche à la main et appelait les enfants. Et dans le rêve, elle n'arrivait pas à aller rejoindre ses enfants, donc elle angoissait. Elle pensait que presque n'importe qui pouvait être le Watcher, ce qui donnait l'impression que la vie quotidienne naviguait dans une sorte de labyrinthe de menaces constantes. Elle a observé attentivement n'importe qui du coin pour voir s'il regardait étrangement ses enfants et elle a passé des heures à rechercher sur Google toute personne qui semblait suspecte. C'est clair que ton focus devient entièrement là-dessus.
Ah oui, tu dois plus avoir d'autres temps libres à part faire ça. Ça doit tellement être traumatisant. Je la comprends. J'aurais fait la même chose, d'espionner tout le voisinage, de les googler, les vérifier sur les réseaux sociaux, parce que je sais aussi qu'elle a fait ça. Elle a vraiment vérifié tout le monde. Elle allait lire les commentaires pour détecter une piste, mais sans issue. Il y avait des raisons d'envisager d'autres suspects. D'une part, la police a parlé à Michael avant l'envoi de la deuxième lettre, ce qui rendait l'envoi des deux autres particulièrement imprudente. Il est à noter que Lugo, le détective Lugo, avait mentionné au Brodus qu'il ne recevrait plus de lettres après avoir parlé à Michael, ce qui finalement n'est pas arrivé. Ensuite, il y avait le reste du quartier à considérer. L'enquêteur privé a trouvé deux agresseurs sexuels d'enfants à quelques pâtés de maison. Également, Bill Woodward, le peintre en bâtiment des Brodus, avait également remarqué quelque chose d'étrange. Le couple derrière la maison gardait une paire de chaises de jardin étrangement près de la propriété des Brodus. Et je le cite, « Un jour, je regardais par la fenêtre et j'ai vu ce type plus âgé assis sur l'une des chaises. Il ne faisait pas face à sa maison, il faisait face aux Brodus. » Donc c'est assez creepy. Mais à la fin de 2014, l'enquête était au point mort. The Watcher n'avait laissé aucune trace numérique, aucune empreinte digitale et aucun moyen de situer quelqu'un sur une carte, car les lettres peuvent provenir de pratiquement n'importe quelle boîte aux lettres du nord du New Jersey. Selon un des enquêteurs sur l'affaire, Scott Krause, c'était comme essayer de trouver une aiguille dans une botte de foin. Donc en décembre, la police de Westfield a déclaré aux Brodus qu'elle n'avait plus d'options. Ayant tenté toutes les autres solutions et comme toute personne qui ne comprend pas ce qui lui arrive, Derek a montré les lettres à son prêtre qui accepta de bénir la maison. Quand tu es rendu, que tu ne sais plus quoi faire, souvent on a tendance à se tourner vers la religion. C'est même
c'est le dernier recours.
Encore aujourd'hui.
Les rénovations au 657, incluant un nouveau système d'alarme, ont été terminées en quelques mois. Cependant, l'idée d'emménager remplissait les Brodus d'une anxiété accablante. Pourraient-ils laisser leurs enfants jouer dehors ou inviter des amis? Recevraient-ils une nouvelle lettre à chaque semaine? Derek a commencé à magasiner les bergers allemands dressés et a publié une offre d'emploi sur un site web recherchant un vétéran de l'armée. Dans l'annonce, on pouvait lire « Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous entraîner dans la cour à tous les jours. » Le couple était clairement découragé par leur achat. Derek s'était déplacé à quelques reprises suite à des alarmes occasionnelles à la maison, même parfois en plein milieu de la nuit. Il a même apporté un couteau avec lui, juste au cas où, mais il n'y avait rien de spécial. Cependant, le Watcher devenait de plus en plus creepy. Il a même envoyé une autre lettre en disant qu'il avait l'impression que la maison se retournait contre lui, là, qu'elle le pourchassait. Donc vraiment, même lui de son côté commence à se sentir, on dirait, oui, perturbé par les événements. Les Broadus avaient vendu leur ancienne maison. Ils ont donc aménagé chez les parents de Maria tout en continuant à payer l'hypothèque et les impôts fonciers sur le 657. Étant donné que personne ou presque devait être mis au courant des lettres, il y avait plusieurs commérages sur eux dans le voisinage sur le pourquoi la famille n'emménageait pas, malgré la fin des travaux de rénovation qui sont terminés. Il faut comprendre que Derek et Maria souffraient d'un très grand stress et devaient prendre des médicaments même pour trouver le sommeil. Maria décida de consulter un thérapeute après une visite de routine chez le médecin qui a commencé par la question « Comment allez-vous? » qui la fit fondre en larmes littéralement. La thérapeute a déclaré qu'elle souffrait d'un stress post-traumatique qui ne disparaîtrait pas tant qu'il ne serait pas débarrassé de la maison. Donc ça va quand même assez loin.
Oui, assez... C'est fou parce que, tu sais, un PTSD, là, donc un choc post-traumatique, c'est souvent des événements très graves qui créent ça. Puis je le comprends très bien là, dans la situation actuelle, là, comment la mère a pu éclater en larmes là, dans une visite de routine. Là, c'est assez, c'est quasiment surprenant que ça ne soit pas arrivé avant, là. 6 mois après l'arrivée des lettres, les Broadus décident de vendre le 657 Boulevard. Ils l'ont initialement mis en vente plus cher que ce qu'ils ont payé pour refléter les rénovations qu'ils avaient effectuées. Mais peu de potentiels acheteurs se sont présentés et des rumeurs avaient déjà commencé à circuler sur les raisons pour lesquelles la maison était vide. Plusieurs offres préliminaires sont arrivées bien en deçà du prix demandé, mais les Broadus n'étaient pas prêts à subir un tel choc financier. Ils voulaient seulement partager les lettres avec des acheteurs potentiels. Personne n'est allé aussi loin, même après avoir baissé le prix. Derek et Maria ont pensé à ce qu'ils auraient fait si les propriétaires précédents leur avaient parlé de leur lettre de The Watcher. Les Woods, tous deux scientifiques à la retraite, ont mentionné aux Broadus qu'ils ne se souvenaient de la lettre qu'ils avaient reçue comme étant plus étrange que menaçante, en fait, les remerciant d'avoir pris soin de la maison. Ils disent qu'ils n'ont jamais eu de problème et ne jamais s'être sentis surveillés, là. Ils verrouillaient même rarement les portes. Puis c'est ce qu'ils disaient, là, qu'eux, en 23 ans, ils n'avaient jamais senti de lettre, mais malgré tout, ils ne sentaient pas tant le ton menaçant. Mais les Broadus ont estimé que le nom à lui seul était suffisamment inquiétant pour mériter d'être mentionné à une nouvelle famille emménageant. On s'entend, là, quand tu reçois des lettres de The Watcher, c'est un élément pour lever un drapeau. Le 2 juin 2015, un an après avoir acheté la maison, ils ont déposé une plainte légale contre les Woods, affirmant que ceux-ci auraient dû divulguer la lettre, tout comme ils l'avaient fait sur un problème d'eau là, qui arrive régulièrement au sous-sol. Les Broadus disent qu'ils espéraient parvenir à un règlement pacifique. Par contre, leurs enfants ne connaissent toujours pas The Watcher et leur avocat leur a assuré que, tout au plus, un petit fil de presse juridique pourrait reprendre l'histoire. Là, parce qu'on le sait, une fois qu'on dépose une poursuite, il y a des éléments qui sont publics là, de la poursuite. C'était naïf de leur part. C'est à ce moment que l'affaire est devenue médiatisée. Malgré une tentative tardive de rendre l'histoire confidentielle à huis clos, ils n'ont pas réussi. Là. Le juge a refusé. Il y a un journaliste qui a mis la main sur la poursuite et l'histoire est devenue virale rapidement dans les médias. Puis c'est à ce moment-là que ça s'est vraiment promené parce qu'au départ, personne n'était vraiment au courant. Donc, des camions de différents médias ont campé devant le 657 Boulevard. Il y a un journaliste local qui s'est même installé sur une chaise de jardin pour effectuer sa propre surveillance là, presque 24 heures sur 24. Les Broadus ont reçu plus de 300 demandes des médias, mais avec le conseil d'un conseiller en relations publiques qui a été référé par un collègue de Derek, ils ont décidé de ne pas parler publiquement pour épargner encore plus d'attention à leurs enfants parce qu'ils tentent vraiment de les protéger eux là-dedans. Ils ont quitté Westfield et se sont rendus dans la beach house d'un ami, avec tout le brouhaha des médias. Là. Malheureusement, malgré leur éloignement, ils n'ont pas trouvé la paix d'esprit. Le grand-père de Maria a eu une crise cardiaque tout de suite après qu'ils aient déménagé et l'ami chez qui ils habitaient, lui, a eu une crise de grand mal, que ça s'appelle, puis c'est une sorte de crise épileptique avec des troubles convulsifs. Là. Donc, il a fallu encore une fois qu'il déménage de la maison. Finalement, Derek et Maria se sont assis avec leurs enfants pour leur expliquer les vraies raisons pour lesquelles ils n'avaient pas emménagé dans la maison. Les enfants avaient beaucoup de questions, évidemment. Là. Qui est le Watcher? Où habite cette personne? Pourquoi cette personne est-elle en colère contre nous? Des questions auxquelles Derek et Maria n'avaient peu de réponses.
Et à ce moment-là, évidemment, les médias et l'Internet vont s'emparer de l'affaire parce que c'était rendu une histoire qui était surtout locale, même dans le petit quartier là, de Westfield.
Oui.
Mais avec le temps, non seulement les médias s'en sont mêlés, mais l'Internet aussi. Puis c'est là qu'il y a eu une certaine forme d'enquête réalisée sur le web là, et via les médias. Un journaliste suggère d'utiliser un radar pour voir à travers les murs, pour trouver ce que le Watcher prétendait être, justement, qu'est-ce que lui prétendait être dans les murs, parce que dans sa première lettre, il disait, avez-vous regardé dans les murs, est-ce qu'ils ont trouvé ce qu'il y a dans les murs? Cependant, l'inspecteur en bâtiment avait déjà regardé, il avait dit à Derek que le seul problème des murs était le manque d'isolation de la maison qui est vieillissante.
Ouais.
Donc, il semblerait pas avoir de trésors cachés ou de cadavres dans les murs. Également, un groupe d'utilisateurs de Reddit était obsédé par une image captée en mode Street View sur Google Maps qui montrait une voiture carrée là, devant le 657 et un utilisateur pense avoir vu un homme tenant une caméra sur le siège du conducteur. D'autres, plus rationnellement, ont vu un pixel de reflet de lumière.
Oui, oui. Moi, je l'ai vu cette photo-là, puis c'est vrai qu'il y a quelqu'un, sur le siège passager, mais c'est vrai que c'est difficile à distinguer si c'est une caméra ou non.
Oui.
Mais c'est drôle, hein, parce que les photos de Google Street View, il faut toujours se mettre en tête que c'est une photo généralement qui est prise une fois par année à un moment très, très précis où la voiture, le Google Street View car, se promène dans les rues. Là. Donc, est-ce qu'il y a eu la chance, entre guillemets, de photographier le Watcher au moment même où ce que la voiture du Street View est passée? Peut-être. C'est vrai que c'est étrange. C'est vrai que c'est une certaine piste, mais on n'en sait pas plus.
Puis il y a toujours des glitches dans Google Street View.
Exact. Ben oui, parce que la voiture, elle se promène. C'est déjà très hot qu'ils sont capables d'assembler une série de photos. Je sais pas si vous avez déjà vu cette voiture-là. Là, elle a des multiples caméras sur son toit. Là, puis c'est quand même assez impressionnant.
La gamme de suspects proposée par les internautes comprenait une maîtresse de Derek qui a été rejetée, en fait, un agent immobilier méprisé, le projet d'écriture créatif d'un étudiant du coin, même une stratégie de marketing là, d'un peu de type viral là, pour un film d'horreur. On peut penser, par exemple, au Blair Witch Project, ou même des jeunes là, gothiques du coin qui s'amusent. Donc, on suspecte vraiment de tous les fronts. Certaines personnes pensaient simplement que les Broadus étaient plutôt des trouillards et que, en fait, c'est pour ça qu'ils avaient choisi de ne pas avoir emménagé dans la maison.
Ouais.
À Westfield, les gens étaient nerveux et la rumeur du Watcher effrayait tout le monde, pas juste la famille Broadus. Le mot se passait aussi, là, parce qu'une fois que c'est sur Internet, tout le monde en parle assez rapidement. Par exemple, Laurie Clancy, qui donne des cours de piano dans sa maison derrière le 657, témoigne qu'une de ses élèves était terrifiée à l'idée de descendre le boulevard. Faut se dire aussi qu'une fois que l'histoire, dans une histoire comme ça de lettres envoyées par la poste, c'est dangereux de rendre ça public parce qu'après, il y a plein de gens qui peuvent troller puis qui peuvent eux aussi envoyer des lettres là, juste pour faire peur à la famille.
Exact.
Vous vous souvenez du voisin suspect Michael Langford? Selon son frère, le Sandy Langford, Michael avait reçu un diagnostic de schizophrénie alors qu'il était jeune. Il effrayait parfois les nouveaux arrivants dans le quartier lorsqu'ils faisaient des choses étranges comme par exemple marcher dans leur jardin ou jeter un coup d'œil par les fenêtres des maisons en cours de rénovation. Il y avait des drôles d'habitudes, là. Mais ceux qui le connaissent ont dit que les choses étranges qu'il faisait n'étaient pour la plupart que des gentillesses de voisinage un peu inhabituelles.
Oui.
Selon un de ses voisins, il sort chercher les journaux tous les matins. Les gens qui connaissent Michael depuis des décennies ne pensent pas qu'il est capable d'écrire ces lettres-là, le même qu'il n'a pas, peut-être l'intelligence de
le
faire.
Oui, c'est ça le niveau, c'est ça le niveau de français, le niveau d'écriture.
Autre élément qui est sorti dans les médias, les enquêteurs avaient finalement effectué une analyse ADN sur l'une des enveloppes et déterminé que l'ADN appartenait à une femme.
Oui.
Cela apporte un changement de cap important là, à l'enquête, puis décide de regarder plus près vers Abby Langford, la sœur de Michael, toujours chez la famille, qui, elle, travaillait comme agente immobilière. Était-elle contrariée d'avoir raté une commission là, dans la maison d'à côté? Elle travaille également là, au Lord & Taylor du coin et le détective privé s'est coordonné avec un agent de sécurité pour rattraper sa bouteille d'eau en plastique pendant un quart de travail pour faire des tests ADN.
Comme dans District 31.
Oui. Cependant, l'échantillon d'ADN ne correspondait pas. Peu de temps après, le bureau du procureur a donné à Derek et Maria des nouvelles inattendues. Ils ne leur diraient pas pourquoi ni comment, mais ils avaient complètement exclu pour de bon la famille Langford comme suspect.
Ouais.
Mais bon, ils gardent ça pour eux.
Les Brodus étaient stupéfaits. Ils avaient déclaré au procureur qu'ils prévoyaient porter des accusations civiles contre les Langford et se demandaient si les procureurs mentaient pour empêcher l'histoire d'exploser à nouveau. Laissés sans suspect, les Brodus ont rouvert leur enquête personnelle. Ils hésitaient encore à partager là, avec leurs voisins qui restaient dans le bassin des suspects. Là, on n'a toujours pas identifié qui c'était. Par contre, un après-midi, il s'est décidé à parcourir les pâtés de maison avec une photo de l'enveloppe manuscrite de The Watcher. Il espérait que quelqu'un pourrait reconnaître l'écriture d'une carte de Noël, par exemple, mais la seule rencontre notable est survenue lorsqu'un homme plus âgé qui vivait derrière la maison a déclaré que son fils avait plaisanté en disant que le Watcher lui ressemblait un peu. Il y a un voisin d'en face qui était le PDG de Kroll, K-R-O-L-L, qui est une entreprise de sécurité, et les Brodus ont embauché l'entreprise elle-même pour rechercher des correspondances d'écriture, mais ils n'ont rien trouvé. Ils ont également embauché Robert Leonard, un linguiste réputé qui n'a trouvé aucun chevauchement notable lorsqu'il a parcouru sur le web tous les forums de discussion locaux à la recherche de similitudes avec l'écriture du Watcher, même s'il pensait que l'auteur pourrait regarder Game of Thrones, là, parce qu'il y a une certaine référence là, de Jon Snow, là, qui est un des Watchers on the Wall, là, pour ceux qui écoutent la série. À un moment donné, Derek a persuadé un ami qui travaille dans le domaine des technologies de le connecter à un pirate informatique prêt à essayer de pénétrer dans les réseaux Wi-Fi du voisinage pour tenter de récupérer des documents qui pourraient incriminer là, The Watcher. Mais le faire, de un, c'est illégal et il s'est rendu compte que c'est beaucoup plus difficile que dans les films. Parce que dans les films, on le voit, hein, la personne apitonne un petit peu, tuk, 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 tuk. Puis on
clac,
réussit.
Clac, clac, et puis boum.
Oui, oui, quelques belles, beaux interfaces qui n'existent pas vraiment, qui sont toutes cute et c'est fait. Mais malheureusement, ils n'ont pas réussi, cette étape-là. Le détective privé et la police de Westfield étaient également de retour à la case départ. Les flics ont demandé à Andrea Woods, l'ancienne propriétaire, un échantillon d'ADN et ils ont interrogé son fils également de 21 ans. Lui a été assez surpris là, de devenir un potentiel suspect. Un an après les faits, il était difficile en fait de trouver de nouvelles pistes et la police avait raté un indice important. À peu près au moment où les Brodus avaient reçu leur première lettre, il y a une autre famille du boulevard qui a reçu une note similaire du Watcher. Les parents de cette famille vivaient dans leur maison depuis des années et leurs enfants étaient grands. Alors, ils ont jeté la lettre, tout comme les Woods, tout en pensant que c'était juste une blague. Mais après l'annonce de la nouvelle dans les médias, l'un de leurs enfants en a parlé sur Facebook et a ensuite supprimé le message. Lorsque les enquêteurs ont parlé à la famille, ils ont confirmé que la lettre était similaire à celle des Brodus, mais son existence n'a fait que rendre l'affaire plus confuse, en fait. Ça n'a pas fait avancer l'enquête.
Non, c'est ça. Une nuit, un détective privé et un collègue étaient assis à l'arrière d'une camionnette garée sur la rue Le Boulevard, observant la maison à travers une paire de jumelles. Vers 23 heures, une voiture s'est arrêtée devant la maison assez longtemps pour que Chambliss, le détective, se méfie. Il a retracé la voiture pour trouver qu'elle appartenait à une jeune femme dans une ville voisine dont le petit copain vivait dans le même pâté de maison que le 657. La femme, sans gêne, mentionne à Chambliss que son petit ami était dans les jeux vidéo là, un peu dark. Quant à l'ADN féminin, Chambliss a pensé que la petite amie ou quelqu'un d'autre aurait pu aider. Le petit ami en question, lui, vivait ailleurs à l'époque, mais Chambliss a tenté de le questionner à deux reprises. Le suspect ne s'est jamais présenté. Le détective n'avait pas suffisamment de preuves pour le contraindre à comparaître et avec l'attention des médias en déclin, il a abandonné l'affaire et il est passé à autre chose. Donc, c'est presque sans issue cette histoire-là. Oui. Alors que les Brodus continuaient d'être consumés par le stress et la peur, pour le reste de Westfield, l'histoire est devenue un peu une légende urbaine ou encore une maison où on va se promener devant là, à l'Halloween, oui. Si vous êtes courageux, bien sûr. Personne qui avait vécu dans la maison avant les Woods ne pouvait se souvenir de quoi que ce soit d'inhabituel. Il était difficile pour les gens d'imaginer que leur quartier idyllique pouvait accueillir quelque chose d'aussi sinistre. Une femme qui habite à proximité a dit qu'après l'annonce de la nouvelle, elle et une dizaine de ses voisins s'étaient rassemblés dans la rue pour découvrir qui avait peut-être envoyé les lettres qui avaient été envoyées au reste du voisinage. Finalement, ils sont parvenus à un consensus. Peut-être que les Brodus eux-mêmes s'étaient envoyé les lettres. Voilà aussi une théorie intéressante. Surtout que maintenant, nous savons que Netflix a confirmé une série inspirée de l'histoire. Personnellement, j'en doute quand même que ce soit une histoire inventée. Mais on va y revenir tantôt.
Les Brodus étaient soudainement exclus non seulement de leur maison, mais aussi de leur ville. Derek voulait quitter Westfield, mais Maria a insisté pour ne pas déraciner ses enfants. 2 ans après l'arrivée des lettres de Watcher, les Brodus ont emprunté de l'argent à un des membres de leur famille pour acheter une autre résidence à Westfield, en utilisant une coquille d'entreprise pour garder l'emplacement privé. Donc, au lieu de mettre des propriétaires personnels, quand tu mets une entreprise, ben, tu peux mettre l'adresse que tu veux à cette entreprise-là. Donc, ça garde un certain niveau d'anonymat. Mais rester en ville était stressant pour eux. La première fois que Maria a laissé sa fille aller à la piscine avec des amis, elle a tout le temps regardé le tracker de position sur l'iPhone, le Find My iPhone, dans le fond, pour suivre son enfant. Elle avait vraiment peur. Pendant ce temps, les Brodus devaient encore trouver quoi faire du 657 Boulevard. Là, je vous rappelle, elle n'est pas habitée, ils payent encore l'hypothèque, les impôts fonciers, etc. Leur action en justice était en cours, mais elle semblait peu susceptible de réussir. Certains États exigent que les vendeurs divulguent des conditions sociales transitoires, comme des meurtres ou même des maisons hantées. Hein. Il y a eu une histoire en 91 qui impliquait une maison qui présumait qu'il était rempli de fantômes, puis un tribunal de New York qui a statué qu'en droit, la maison était hantée. Mais au New Jersey, il n'y avait pas ce type de réglementation-là. Un juge par la suite a rejeté l'action en justice, donc les Woods, contre les Woods, par l'intermédiaire de leur avocat, et ils ont refusé de commenter l'affaire. Donc Derek a envisagé de louer la maison pour essayer de tirer un revenu de ça, au ministère des anciens combattants et même à une entreprise qui gère des maisons de transition, là, parce qu'il faut qu'ils trouvent des solutions là, pour arriver à s'en débarrasser. Au printemps 2016, ils ont remis la maison sur le marché en espérant que cette fois-ci, ça fonctionne, il y avait moins d'attention médiatique aussi. Donc, ils ont organisé une journée porte ouverte qui s'est avérée très, très fréquentée. Se sentant à court d'options, l'avocat des Brodus a proposé une idée, vendre la maison à un promoteur qui pourrait la démolir et diviser la propriété en 2 maisons vendables. Il pensait qu'il pourrait obtenir $1 million pour le lot. Lorsque la proposition a été annoncée publiquement, les groupes Facebook de Westfield ont pris en feu. Certains ont exprimé leur sympathie pour les Brodus, tandis que d'autres ont souligné que l'immobilier était toujours un pari et que c'était pas leur problème si la maison avait perdu de la valeur. Un autre groupe, eux, était convaincu que c'était l'aboutissement, dans le fond, d'une longue escroquerie. Là, il y a encore beaucoup de monde qui pense que les Brodus ont plutôt tenté de faire ça pour faire de l'argent, ou du moins pour se débarrasser de la maison.
Finalement, les Brodus ont reçu de bonnes nouvelles. Une famille avec des enfants adultes et 2 gros chiens avait accepté de louer le 657. Le locataire a déclaré au Star Ledger qu'il ne s'inquiétait pas pour le Watcher. C'est une publication, là, Ledger. Bien qu'il ait une clause dans le bail qu'il laisse sortir en cas d'une autre lettre. 2 semaines plus tard, Derek se rend au 657 pour s'occuper, entre autres, des écureuils. Mais c'est là que le locataire lui a remis une enveloppe qui venait d'arriver dans laquelle il est inscrit « Vent violent et froid glacial ». On se rappelle, il a l'habitude de mettre un contexte météorologique. « Au vilain et méchant Derek et à sa femme Maria ». Cette lettre, donc, 2 ans et demi après l'apparition du Watcher, est sortie de nulle part. Elle était datée du 13 février, le jour où les Brodus ont fait des dépositions dans leur procès contre les Woods. La lettre était moins élégante et plus agressive que les autres, et il semblait que l'auteur avait suivi l'histoire de près. Ils avaient vu la couverture médiatique. Il affirme même qu'il était passé tout près des camions de presse quand ils sont arrivés dans le quartier. Le locataire, entre autres, qui occupe la maison, a été mentionné dans la lettre. Cela l'a effrayé, mais il a accepté de rester quand même, à condition que les Broadus installent des caméras autour de la maison. La lettre indiquait là, que la vengeance pouvait prendre plusieurs formes, donc lui, ça l'inquiétait. Celui qui a écrit la lettre, l'auteur, affirmait que peut-être un accident de voiture pourrait arriver, même un incendie ou la mort mystérieuse d'un animal de compagnie. Donc, ça te frôle les menaces, là, tout
oui,
ça.
Oui. L'enquête reprend et Derek apporte la lettre au poste de police où un détective a regardé une carte du quartier et a tracé un cercle autour de la maison de 300 mètres. On tourne vraiment un peu au départ de l'enquête, suggérant que The Watcher doit être quelque part là-dedans. Les Broadus ont continué à faire de la pression, mais il n'y a toujours pas grand-chose à faire pour les forces de l'ordre. Ils se retrouvent un peu le bec à l'eau. Là. Ça peut être à peu près n'importe qui, puis ils n'ont pas de preuves malgré toutes les traces numériques, peu importe ce qui a été discuté sur le web. Les Broadus ne vivent plus dans la peur omniprésente que le Watcher puisse frapper à tout moment, mais ils continuent de faire face aux effets des lettres. Hein. Ils ont un nouveau locataire, encore une fois, mais le loyer ne couvre pas l'hypothèque. Les enfants aussi sont parfois taquinés à l'école et les rumeurs complotistes contre eux persistent. Ils essaient d'éviter les personnes qui se sont prononcées contre leur candidature au conseil d'urbanisme là, lorsqu'ils ont voulu démolir la maison et où ils sont accusés d'être des escrocs. Avec le recul, Derek et Maria se sont demandé s'ils n'auraient pas dû vendre la maison à perte dès le départ. Puis moi aussi, je me pose cette question-là. Là. The Watcher n'était plus la seule personne à envoyer des lettres anonymes à Westfield. Écoutez bien ça. La veille de Noël, plusieurs familles ont reçu une enveloppe dans leur boîte aux lettres. Ils avaient été livrés en main propre au domicile des personnes qui avaient le plus critiqué les Broadus en ligne. Les lettres dactylographiées étaient signées « Amis » avec un S, de la famille Broadus. Derek a admis un peu plus tard qu'il avait écrit lui-même les lettres. Il n'en était pas fier, il n'en avait même pas parlé à sa femme. Il a dit que c'était les seules lettres anonymes qu'il avait écrites, mais il s'était senti poussé à bout, là, vraiment mort là, de rester là un peu en silence puis de regarder un peu tout le monde, lui lancer des accusations contre sa famille parce que lui, il n'a rien fait de mal, là, en fait, à part avoir acheté la mauvaise maison. Finalement, là, ils ont réussi à sortir, ça a été quand même long. Tout ça, on n'a toujours pas de coupables, de suspects, mais ils ont réussi à vendre la maison début juillet 2019, soit 5 ans plus tard, là, pour environ 959 000 $ là, selon Zillow, là, qui est la grosse base de données immobilières aux États-Unis. Et dites-vous qu'ils l'ont acheté 1,3 million. Là, donc, c'est quand même une grosse, grosse perte pour eux, sans compter les 5 années où il y avait l'impôt foncier à payer, il n'y avait pas toujours des locataires et tout ça. Donc, ça a été une très, très, très grande perte financière pour la famille Broadus. Actuellement, se sont retrouvés une nouvelle maison. J'ose croire qu'ils ont une certaine paix d'esprit actuellement et qu'ils ont pu, disons, s'en sortir financièrement, mais il doit y avoir un traumatisme qui est resté chez eux, là, j'ai aucun doute là-dessus.
Oui, c'est assez bizarre. Hein? En fait, ça se conclut un peu en queue de poisson, cette histoire-là. Peut-être qu'un jour, on va le savoir, qu'est-ce qui est vraiment arrivé à la famille Broadus puis qui était le Watcher. Mais on se réjouit d'une certaine façon qu'il soit pas passé à l'action parce que à un certain moment donné, il menaçait là, de s'en prendre à la famille puis à leurs animaux de compagnie, tout ça. Donc, en fait, il y a jamais de, à part le stress, ben, ce qui est pas minimisable, mais il y a jamais eu de dommages concrets, de dommages réels ou d'attaques là, perpétrées par le fameux Watcher.
Non, exactement. Comme tu dis, il y a jamais eu de menace qui a été exécutée en tant que telle.
Donc là, ça nous laisse, en fait, on ne sait plus trop quoi penser de tout ça. Il y a différentes théories, évidemment, Seb. Le fait qu'ils ont peut-être orchestré ça eux-mêmes, le fait que c'est peut-être un résident du quartier qui a envoyé ces lettres-là, comme on l'a vu dans d'autres histoires. Toi, qu'est-ce que tu en penses?
Moi, j'ai l'impression... Donc, je doute fortement que ça soit eux-mêmes. Vivre 5 ans de calvaire... du stress, du très gros stress comme ça, ça peut pas valoir une tentative d'avoir peut-être une série Netflix ou un film qui va être fait sur notre histoire. Donc, c'est que ce scénario-là, je l'envisage très, très peu ou même pas du tout. J'ai l'impression que c'est un voisin qui s'amuse parce que c'est certain qu'il y a un aspect de proximité là, pour tout ce qu'on vous a donné tout à l'heure. Donc, mais Est-ce que c'est les Langford? Est-ce que c'est les autres voisins âgés là, qui les observaient? Tu sais, des fois, il y a juste des gens curieux aussi. Là. Fait que c'est difficile à tracer la ligne. Est-ce que c'est un membre de leur famille qui leur fait une blague? Ça peut être un peu n'importe qui. Je ne suis pas capable de trouver une... Comme eux-mêmes, hein, en fait, ils sont pas capables d'identifier vraiment quelqu'un avec un très fort doute, du moins ils l'ont pas exprimé publiquement. Donc, j'ai vraiment de la misère à voir. Puis, ça se peut que les Brodus finissent leur vie puis qu'on sache jamais qui était The Watcher. Là. Toi, c'est quoi tes hypothèses, Émile?
Ben écoute, j'étais un peu du camp qui croyait que c'était peut-être eux en fait qui avaient orchestré ça. J'essayais de trouver un mobile, puis j'avais de la difficulté à en trouver un. Il y en a un que je trouvais qui était peut-être intéressant, c'était celui que peut-être que très tôt, après avoir acheté la maison, là, genre, ils n'étaient pas encore aménagés dedans, ils ont peut-être eu un peu de remords ou ils se sont peut-être rendus compte que la maison peut-être leur convenait pas ou peut-être qu'elle était trop chère. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on sait moins, que je serais curieux de savoir, en fait, c'était quelle était un peu leur situation financière, leur situation au travail. Est-ce que ça allait bien? T'sais, est-ce qu'il y a une promotion qui a été refusée finalement ou quelque chose comme ça? Parce que ça pourrait expliquer le truc, même si au final, ils ont vendu à la perte. Peut-être qu'ils voulaient quand même, peut-être qu'ils regrettaient leur choix une fois la maison achetée. Puis tu sais, c'est peut-être que eux auraient même pu envoyer la lettre à la famille Woods avant même d'emménager pour les backer eux de leur côté, prouver que OK, ben il y avait une lettre même avant même qu'on arrive. Puis j'ai l'impression que ça s'est pas déroulé comme prévu. Donc peut-être que tout le cercle médiatique, même les poursuites et tout ça, c'était imprévu, mais c'est que peut-être qu'ils tentaient de s'en sortir sans qu'il y ait autant de conséquences. Je sais pas si je m'exprime bien.
Oui.
Mais tu sais, ça pourrait être du moins un des scénarios, mais j'ai de la misère à le croire quand même. Je crois quand même à l'hypothèse la plus simple, que c'est sans doute quelqu'un du quartier qui se moque d'eux d'une certaine façon. Mais c'est bizarre que les Woods, avant qu'ils sont restés là pendant près de 3 décennies, n'ont jamais rien reçu. Pourtant, c'est quelqu'un, le Watcher, qui stipule que, tu sais, sa famille, avant lui, oui. là, surveillait la maison, là, le père de son père, tout ça. Pourquoi il s'est rien passé en 23 ans? C'est vraiment bizarre.
Oui. Mais au niveau du travail, on disait qu'il y avait un gros poste de vice-président, justement, qui lui permettait de se payer ça. Au niveau de la mère, c'était pas toujours clair, mais il semblait pas au départ avoir de problèmes financiers, en fait. Mais il y avait une des théories sur les Woods, justement, hein, qu'on n'a pas discuté, qui parlait que la maison, il y a 10 ans, elle valait 300 000, puis maintenant, elle était 1 300 000. Donc, mais ça, je pense que c'est juste l'explosion de l'immobilier, là, mais il y a des gens qui essayaient de voir un peu peut-être une manipulation des Woods ou quelque chose comme ça à travers ça. Mais on dirait je les vois plus eux que la famille Brodus. Tu sais, ils ont eu une poursuite, ils ont tenté une poursuite un criminel, une deuxième poursuite au civil. Il a fallu qu'ils aillent devant le conseil d'urbanisation pour faire approuver les projets, les frais d'avocat. Ils disaient que c'était au-dessus de 100 000 $ de frais d'avocat. Je trouve que c'est beaucoup d'efforts pour essayer d'avoir une histoire pour avoir une série là, puis même si tu penses pas que tu peux aller si loin que ça si c'est eux qui avaient orchestré ça, je suis pas certain qu'ils pensaient que ça pouvait aller disons aussi loin, être aussi complexe. On dirait que c'est pour ça que j'évacue quand même comme cette hypothèse là.
Mais je pense pas que la série soit dans l'équation là, honnêtement.
Non.
Dans le sens que j'ai l'impression qu'ils ont peut-être voulu revenir sur leur décision, mais qu'ils ont pris un drôle de chemin pour y arriver. Mais encore, je trouve que l'hypothèse est mince là. Donc je suis un peu confus dans tout ça. Mais on va en reparler dans l'after show, Seb, parce que juste après cet épisode-là, on s'ouvre une autre bière et puis on discute du dossier avec nos membres Patreon. Pour les abonnés Oui Monsieur, au forfait Oui Monsieur sur Patreon, vous avez accès aux after shows, vous avez accès à du contenu bonus. Et donc, on va discuter de ça, puis aussi de d'autres cas aussi qui sont similaires. Moi, ça me rappelait un peu le cas du petit Grégory, hein, vous savez, une histoire française très populaire, avec le corbeau, cette personne qui rédigeait des lettres aussi. Donc, on va en parler un peu. Je sais que Seb aussi, tu as d'autres histoires dont tu voulais nous parler un peu dans le même le même type. Donc, on parle de tout ça dans l'after show. Et sinon, eh bien, qu'est-ce que vous en pensez, vous, chers distordus? Dites-nous-le, on veut vous entendre. Dites-nous-le dans les commentaires. Vous pouvez nous le dire sur notre groupe de discussion Facebook aussi, sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube. Et puis, sinon, eh bien, on vous dit à la prochaine. On vous rappelle que Distorsion est une création de nous deux, Seb, Sébastien Lévesque et Émile Gauthier. Le montage est effectué par André Beaupré. La musique d'ambiance de cet épisode-ci est une composition de moi-même, et on ne pourrait pas quitter sans remercier nos chers Patreons.
Et je fais un high-five à Lise, à Catherine L, à Mac M-A-K et à Marie-Pierre H.
Gros shout-out à Quentin, à Roxane H, à Caroline et à Maude J.
Sans oublier nos crucifix, Tristan P, Jeanne B et Marc SC. On vous aime.
Un gros câlin à Jade R, Mylène T, Alex M et Olivia R.
Et on termine par Jordan B, Catherine S, Jimmy Lee T et Edith B. Merci.
Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nous, mon cher Émile?
Oh oui. Lorsque vous achetez une nouvelle maison, assurez-vous qu'il n'y a pas une section sur Reddit qui lui est dédiée.
Oh non.
Ciao.